premier coup de cœur, c'est un roman américain paru dans la très belle collection Terre d'Amérique chez Albin Michel, qui s'appelle donc « Lorsque le dernier arbre », et l'auteur s'appelle Michael Christie. Il est donc sorti là tout début septembre. C'est le premier roman de son auteur, il a été, il est traduit dans plein de langues, il est sur plein de listes de prix, enfin voilà. C'est un auteur qui avait fait des nouvelles avant, mais pas de roman, c'est un assez gros roman, qui est alors difficile à classer, c'est à la fois un roman d'anticipation, parce que ça démarre en 2038, mais en fait très vite on revient à maintenant, puis à avant, et on remonte comme ça jusque dans les années 30. Et en fait, il va se passer très peu de choses dans l'année 2038. En gros, c'est le début et la fin, genre un petit chapitre au début, un petit chapitre à la fin. Et sous forme de flashbacks qui s'imbriquent les uns dans les autres, on remonte dans la généalogie de la jeune femme qui est le personnage central du début du bouquin, mais qu'on va quitter ensuite pendant tout le bouquin pour s'intéresser à son père, sa mère, son oncle, enfin bref, c'est toute une saga familiale, en réalité avec deux familles qui s'imbriquent. Et en fait, ça permet de balayer toute l'histoire des États-Unis du point de vue à la fois des plus pauvres et des plus riches, et de montrer en quoi la domination sociale et économique aboutit en fait à une destruction de la nature. Voilà. La thèse n'est pas super originale, hein. Ça fait quand même quelques années qu'on entend parler de...
Courant, ouais.
Voilà, à la fois la domination des hommes par les autres hommes et la domination de la nature par les humains, c'est la même chose, et que ça s'imbrique, et que ça fait la colonisation, ça fait la destruction de la nature, ça fait les inégalités qui se... Voilà. Mais là, c'est incarné dans un roman avec des super personnages et on est embarqué complètement dans cette histoire, quoi. Il n'y a pas de temps mort, il y a éventuellement quelques longueurs, mais ça, c'est un peu le lot de beaucoup d'Américains. On a l'impression qu'ils n'ont pas d'éditeurs ou d'agents qui les incitent à couper un peu et à densifier, du coup. Mais franchement, c'est pas le pire dans son genre, et puis c'est quand même un premier roman très, très, très réussi. Et voilà, j'ai commencé à le lire, je ne pouvais plus m'arrêter, en fait. On est pris dans les histoires des uns et des autres. Il y a un talent aussi à faire des rebondissements et à faire presque du suspense qui concourt à la fluidité et à l'envie de continuer le roman, quoi. C'est ce qu'ils appellent un page-turner, c'est-à-dire un bouquin qu'on ne peut pas lâcher, en fait. Alors, je vais vous lire le tout début. Donc, ça se passe en 2038, lorsque le dernier arbre. Donc, avant le début, il y a une coupe d'un tronc d'arbre qui montre comment le temps s'inscrit dans les arbres. Et c'est la thématique des arbres revient tout
en
du long.
En coupant un tronc en transversal, voilà. On compte
les années. Et donc là, on voit que ça va commencer... En 2038, aller jusqu'en 1908, même plus loin que les années 30, mais 1908, pas beaucoup. Et hop, on remonte jusqu'à 2038.
Une belle métaphore du transgénérationnel.
Exactement. C'est aussi ça l'intérêt de ce bouquin, c'est qu'il y a vraiment un côté familial et transmission, y compris des traumatismes d'ailleurs. Mmh. Et en fait, ce qui les réunit tous, d'une manière ou d'une autre, c'est l'amour des arbres, ou en tout cas, sinon l'amour, du moins le travail autour des arbres, pour certains. Mmh. Ça marque 2038, et page suivante encore, la cathédrale arboricole de Greenwood. Ils viennent pour les arbres, pour respirer leurs aiguilles, caresser leur écorce, se régénérer à l'ombre vertigineuse de leur majesté, se recueillir dans le sanctuaire de leur feuillage et prier leurs âmes millénaires. Depuis les villes asphyxiées de poussière aux quatre coins du globe, ils s'aventurent jusqu'à ce complexe arboricole de luxe, une île boisée du Pacifique au large de la Colombie-Britannique, pour être transformée, réparée, reconnectée, pour se rappeler que le cœur vert jadis tonitruant de la terre n'a pas cessé de battre, que l'âme du vivant n'a pas encore été réduite en poussière, qu'il n'est pas trop tard, que tout n'est pas perdu. Ils viennent ici à la cathédrale arboricole de Greenwood, pour gober ce scandaleux mensonge, et le travail de Jake Greenwood en tant que guide forestière consiste à le leur servir prémâché. Et à partir de là, l'histoire de cette Jake qui, contrairement à ce que son prénom laisse entendre, est une jeune femme.
Jack est une jeune femme et on a envie de lire ce livre de Michael Christie.
Lorsque le dernier arbre, paru roman. Chez Albin Michel. De rien.
Un second coup de cœur.
Alors un coup de cœur dans la rentrée littéraire qui n'est pas un livre littéraire, qui est un livre, qui est un essai. Réinventer l'amour de Mona Chollet. Le sous-titre c'est Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. Tiens, tiens. Alors c'est paru chez Zone, une collection de la découverte. Et voilà, c'est un peu la nouvelle star des essais de vulgarisation, Mona Chollet, depuis son très gros succès avec Sorcière il y a 2 ans. Et moi, je trouve qu'elle a cette capacité incroyable de, quand elle se plonge dans un sujet, d'abord, elle le fait à fond, elle lit beaucoup, elle voit des émissions, elle regarde des blogs, elle écoute des podcasts, elle lit des bouquins, y compris de la fiction, enfin. Et après, elle nous ressort ça tout prémâché, mais génialement, elle a un sens de la formule incroyable. Et donc, comme le sous-titre l'indique, là, elle fait partie de la mouvance féministe depuis très longtemps. C'est une journaliste d'origine suisse qui travaille beaucoup pour le Monde Diplôme et qui fait aussi des bouquins. Elle en a fait quand même plusieurs maintenant. Et quand elle s'intéresse à un sujet, elle y va à fond. Et là, donc, elle s'est posé des tas de questions en tant que féministe hétéro. On rencontre beaucoup de féministes qui sont homo, certaines même qui disent qu'on ne peut pas être une vraie féministe si on n'est pas homo, puisque en fait on serait prisonnière de nos clichés et qu'en vrai on serait lesbienne mais qu'on ne le saurait pas. Bon, ça c'est un peu extrême, mais quand même il y a ce sous-entendu-là, c'est que le patriarcat est tellement fort qu'il n'y a plus moyen d'être hétéro et d'avoir une vraie relation d'amour avec un homme quand on est féministe, quoi. Et donc... Et donc là, elle se dit, mais non, mais moi, j'ai pas envie, moi, je suis hétéro et j'aimerais bien que l'amour hétérosexuel soit encore possible. Et donc, elle s'attache à déconstruire tout ce qui fait que l'amour hétérosexuel est hyper compliqué parce que la société est tellement patriarcale et à domination masculine que, en fait, tout est fait pour que ça foire. Voilà. Et donc, je vais vous lire un petit extrait du tout début. C'est pas les premières pages, mais vraiment très vite, on y arrive. Que je trouve très éclairant. La perversité de nos sociétés est de nous bombarder d'injonctions à l'hétérosexualité, tout en éduquant et en socialisant méthodiquement les hommes et les femmes de façon qu'ils soient incapables de s'entendre. Ingénieux, n'est-ce pas ? Des partenaires qui se conforment à la lettre à leur script de genre respectif ont toutes les chances de se rendre très malheureux. Ces scripts produisent d'un côté une créature sentimentale et dépendante, aux demandes tyranniques, qui surinvestit la sphère affective et amoureuse, et de l'autre un escogriffe mutique et mal dégrossi, barricadé dans l'illusion d'une autonomie farouche, qui semble toujours se demander par quel dramatique manque de vigilance il a bien pu tomber dans ce traquenard. Même quand nous n'incarnons pas complètement ces rôles, nous pouvons en retrouver des éléments en nous-mêmes. Nous sommes au moins conscients de leur existence, et ils créent des interférences problématiques, en particulier le premier qui fonctionne comme un repoussoir. Voilà, donc je trouve que à la fois c'est hyper instructif, elle a vraiment l'art de résumer en quelques mots, parfois en juste une expression, des choses que tout le monde ressent ou connaît ou a déjà vu passer dans des articles, etc., de sociologues et autres, psy ou parce que elle est transgenre dans le sens genre littéraire, c'est-à-dire ou genre scientifique, c'est-à-dire qu'elle est ni sociologue ni psy ni écrivaine de fiction ni humoriste, mais en fait elle fait voilà ni historienne, mais elle balaye tous ces genres là par ses lectures, par ses recherches, et elle nous permet de comprendre vachement mieux certains trucs qui sont là, qu'on dénonce depuis des années, mais là il y a une forme de rassemblement des choses qui fait que d'un coup ça éclaire.
Peut-on parler d'une investigation journalistique ?
Oui, moi je pense que c'est ce qu'on appelle oui, les livres de journalistes. Souvent, quand on dit livres de journalistes, c'est pas un compliment. Mais il y a quelques journalistes qui font ça très très bien, et elle en fait partie.
Et on peut dire que ça l'a amené à une forme de littérature.
Oui, et en plus, elle se met en scène volontiers aussi, pas de manière exhibée, mais de façon à incarner parfois les exemples en disant. Voilà, moi, dans mes histoires de couple, ça s'est passé comme ça. Je connais des gens qui. Mais sans en faire une généralité non plus, parce que c'est un peu facile aussi de prendre un exemple et de dire, ah ben c'est comme ça. Non, elle approfondit, elle approfondit, elle multiplie les exemples dans tous les styles. Elle parle de, je sais pas moi, elle cite à un moment un humoriste français qui a l'air incroyable, que j'ai jamais vu, mais qui fait des spectacles super. Enfin, elle cite plein de choses, je ne sais pas comment elle fait, comment elle trouve le temps de voir tout ça et d'entendre tout ça et de lire tout ça, mais en tout cas le résultat est assez phénoménal.
Réinventer l'amour.
Mona Chollet.
Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles.
Édition Zone.
Merci Marie-Aube,
De rien.
ce fut un plaisir.
Merci à toi.
On se retrouve régulièrement avec les libraires de la région. On retrouve aujourd'hui Benjamin de la librairie La Carline pour un premier coup de cœur.
James, pour ce premier coup de cœur, je vais te parler d'un texte d'une auteure new-yorkaise qui s'appelle Kate Reed Petty, qui vient de faire paraître aux éditions Gallmeister un texte qui s'appelle True Story, que j'ai littéralement dévoré. Je pense que c'est son premier. Sa première qualité, c'est il y a un phénomène d'addiction à la lecture de ce bouquin qui est très très fort. Je ne vais pas pouvoir expliquer exactement, d'un point de vue littéraire, comment fonctionne cette addiction. C'est assez mystérieux d'une part, et c'est un roman qui est à clé. Et on en prend tout à fait l'ampleur à la fin de la lecture, à la toute fin. Donc c'est vraiment un roman dont je vais parler, mais en faisant très très attention à ce que je dis. L'histoire qu'on va suivre, donc dans le premier chapitre, on va prendre connaissance d'un événement qui s'est passé en 1999. Donc on est dans un univers d'étudiants, de fêtes alcoolisées, d'équipes de football, les filles, l'alcool et une jeunesse un peu débauchée. Un soir de fête, deux adolescents éméchés vont se retrouver dans un taxi avec une copine à eux. Une copine, entre guillemets, une connaissance. Il va se passer manifestement quelque chose dans cette voiture qui va être en creux, c'est-à-dire l'absence de connaissance de vraiment ce qui s'est passé dans cette voiture est fondateur de tout le roman. Parce que on va avoir différents narrateurs qui vont, à des moments, donc on va avoir la chronique de cet épisode-là, avec ses lacunes, racontée par un des camarades qui l'a vécu de près. Puis on va avoir le chapitre d'après, la victime en 2015 à Barcelone, se dépatouiller avec cet événement. Par petites touches, on va apprendre un petit peu ce qui s'est passé, ce qui lie les personnages. L'intérêt formel de ce livre, c'est que on va avoir aussi bien des passages narratifs à la troisième personne. Des monologues intérieurs, des comptes rendus de scripts, puisque cette Alice écrit des scripts de films d'horreur. On ne sait pas depuis quand, peut-être depuis cet épisode, qui apparaissent dans le livre.
Alice, c'est la jeune fille qui est dans le véhicule.
Okay, ouais, c'est ça. Et elle a une très bonne amie, Hayley, qui l'encourage à raconter son histoire. On va rencontrer plein de personnages qui gravitent autour de ça, mais beaucoup plus, parce que l'intérêt de ce livre, c'est... ça, je peux peut-être le dévoiler, ne cherchez pas un roman sur le viol, sur une vengeance des victimes, ni sur des motivations des agresseurs, peut-être même pas sur la vérité. C'est un livre sur la rumeur, c'est un livre sur à quel point peut être présente l'absence de vérité. Et c'est ça qui est hyper beau dans ce roman et qui tient en haleine jusqu'au bout, c'est qu'on cherche en même temps que le livre s'écrit, quelle est la réparation qu'on peut trouver dans tout ça ? Est-ce que la vérité est intéressante ? Est-ce que... plein de questionnements qui resteront sans réponse. Et l'intérêt littéraire de ce bouquin, il est très fort, parce que c'est assez rare les romans où on a un puzzle, mais qui ne rentre pas, quoi. Et c'est super bien, vraiment... Il ne faut pas avoir envie d'un bouquin qui soit carré, où on ait toutes les clés, et puis la lecture s'arrête, c'est bon, on a tout. C'est une lecture qui va infuser après, je trouve ça très intéressant aussi que ça se poursuive après. Et il y a des procédés narratifs que je ne dévoilerai pas, qui sont vraiment malins, quoi. C'est un très très bon roman.
Je me rappelle le titre, l'auteur, et puis... La maison d'édition.
Donc ça, c'est True Story de Kate Reed Petty aux éditions Gallmeister. Français d'un auteur qui s'appelle Raphaël Meltz, qui s'appelle 24 fois la vérité, aux éditions du Tripod. Excellent éditeur, le Tripod, s'il en est. Je pense que je lis tous les livres du Tripod parce que c'est une maison d'édition qui publie peu et bien, très bien. Énormément de livres sont excellents.
Question, c'est quoi bien publié ?
Bien publié, je dirais que c'est une façon de travailler les textes, pour avoir rencontré Frédéric Martin, qui est l'éditeur du Tripod. Les livres sont très beaux. Les livres ont un format, une couverture qui s'adapte au propos du livre. Et on sent le travail sur le texte, c'est-à-dire qu'on sent vraiment que l'auteur et l'éditeur ont travaillé pour aboutir à un texte qui soit hyper équilibré, sans fioriture, dans le propos que l'auteur s'était donné. C'est toujours assez admirable, ce roman qui s'appelle 24 fois la vérité, en référence à une citation de Godard, qui dit, ce sera pas exact, mais en gros, que si la photographie est l'art de la vérité, le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Et le roman de Raphaël Meltz va se construire sur deux époques. Une époque est le présent de la narration, où on a un homme qui veut écrire un roman. Il a l'ambition littéraire, il s'est perdu dans le journalisme, et en l'occurrence dans un journalisme sur les choses numériques. Donc il arpente les symposiums, les conférences sur les dernières nouveautés en matière de numérique. Donc il est vraiment à la pointe, et il vend au plus offrant des journaux ses dossiers, etc. Ça lui permet de vivre, et il a mis de côté l'ambition littéraire qu'il a depuis toujours, d'écrire un beau roman qu'il remplisse, quoi. Et un jour, son père, c'est en préambule, lui dit bah, « écris un livre sur papy ». Et c'est des digressions qui vont apparaître dans le roman, donc qui sont des mises en abîme un peu sur ce qu'est d'écrire un livre, mais c'est par petites touches. Et donc, il se dit « papy », mais il n'y a pas moins romanesque, rien que le mot « papy », c'est pas romanesque, quoi. Donc. Et puis le chapitre d'après, ben, le roman sur Papy se déroule, quoi. Parce que Papy, c'est Gabriel, c'est un opérateur pour le cinéma. Donc depuis, donc il est, on va suivre un siècle de cinéma. Mais de cinéma documentaire, c'est-à-dire que lui, il prend sa caméra, il est envoyé par Pathé suivre des événements pour les informations. Voilà, pour les informations qui passent avant les séances de cinéma ou quoi, il y a des informations, ou même au cinéma. Et donc, on va suivre un va-et-vient entre le présent de ce personnage qui vit dans la maison de son grand-père, dont il va faire la géographie, des événements par saut de puce dans le XXe siècle. Hein. Donc, ça va aller de l'enterrement de Sarah Bernard, que ce Gabriel va surprendre presque par hasard. Il était dans un cimetière perché, en train de faire des tests sur sa caméra, avec l'exigence que c'est. Il peut tourner qu'une minute, il faut qu'il fasse très attention à ce qu'il filme. Et puis, le cortège pour l'enterrement de Sarah Bernard arrive, c'est son premier coup de bol, quoi. Mais, c'est, on va dire, un artifice littéraire que se permet l'auteur de faire que ce Gabriel est toujours là au moment clé. Bon, après, il sera salarié de Pathé, donc il sera vraiment envoyé officiellement. Et on va suivre, l'enterrement de Sarah Bernard, le tournage du Mépris de Godard, donc encore une référence. Et ça, jusqu'au 11 septembre. Voilà.
Le fameux 11 septembre.
Donc, un siècle bien tassé de rendez-vous filmés. Et c'est un hommage au cinéma, c'est un hommage à la caméra, c'est un hommage au cadrage, et c'est un hommage au souvenir aussi. C'est une réflexion sur l'image, puisque lui se perd dans ses chroniques de choses numériques, alors que son grand-père, lui... se tenait à l'essentiel, toujours. Et c'est un roman sur la perte, je ne peux pas en dire beaucoup plus, quoi. C'est très très beau, sur l'image, le souvenir, ce qui reste. La mémoire des lieux aussi. Alors, on pleure, c'est toujours très juste, avec une économie de moyens littéraires qui est admirable. C'est un très très bon auteur, Raphaël Mels, que je ne connaissais pas, c'est le premier texte que je lis de lui. Et j'ai été très très touché par la sobriété avec laquelle il avance dans son récit, donc en 24 chapitres. Voilà, 24 fois la vérité. C'est sa vérité, c'est une invention littéraire, mais qui rend réel. C'est très très beau.
Quand la littérature rend hommage au cinéma, c'est juste magnifique.
C'est ça. C'est le cas, c'est vraiment un livre hommage au cinéma. Ouais. Tout à fait. Je peux peut-être lire le...
Bien sûr, un passage.
Donc, chapitre A, Las Vegas. Mais n'oubliez pas que ça fait longtemps maintenant que nous sommes au XXIe siècle. J'écris « n'oubliez pas », mais il me parlait en anglais, et je ne sais pas en réalité s'il me disait « tu » par familiarité ou s'il me disait « vous », en gardant cette froideur professionnelle des rencontres de congrès. Je ne sais pas. Mais lui non plus. Un anglophone ne se demande pas s'il tutoie ou s'il vous voit. Il s'adresse à tout le monde avec le même « you ». Un peu comme nous, les francophones, on ne pense pas qu'en langue maya, il y a des verbes différents pour dire « toucher avec un doigt »,« toucher avec deux doigts »,« toucher avec trois doigts »,« toucher avec toute la main ». Nous, on dit simplement « toucher » et on s'en contente. On se contente de tant de choses en réalité. Las Vegas. Dans l'article qu'il va bien falloir que je me mette à écrire sur le CES, le Consumer Electronics Show, comme chaque année depuis 11 ans que je viens produire la pige spécialisée qu'il m'est si facile de vendre aux plus offrants des journaux qui veulent en parler, et ils veulent tous en parler, je vais reprendre les mêmes vieux clichés sur la ville folie, les néons faramineux, le strip, grand boulevard central, les hôtels et les casinos, vendre un peu de glamour de décor, un peu d'excitation contextuelle, avant de parler des nouveaux téléphones qui seront dans les mains des Américains dans quelques semaines, des Français dans quelques mois, mais pour le moment... Avant le récit hirsute, le réel glabre, au Luxor Hotel, c'est aussi évidemment un casino, le bar est une immense terrasse, avec une vue démesurée sur l'hideuse et aberrante ville de Les Prairies, qui n'est que lumière, certes, mais lumière agressive, lumière déplaisante, rouge qui sue la vacuité du jeu, et jaune qui loue le néant consumériste, néant qui ne brille qu'aux yeux de ceux qui croient que la réussite se mesure en kilowatts, en kilomètres, en kilodollars.
Merci beaucoup, Benjamin. J'en profite, tout à l'heure, nous n'avons pas lu un extrait de True Story. Tu nous rappelles l'auteur ?
De Kettrid Petty.
Voilà, Kettrid Petty aux éditions...
Aux éditions Gallmeister.
Oh yes. Alors, est-ce que tu peux nous lire un extrait, s'il te plaît ?
Oui. La dernière fois que tu es venu me demander cette histoire, cela faisait déjà des années que je me cachais à Barcelone. Je vis dans un studio spacieux en haut d'un immeuble de 4 étages avec un sol carrelé et une grande baie vitrée coulissante qui donne sur un grand patio. Ce patio est bordé de pots en terre cuite laissés là par les précédents locataires, envahis de plantes succulentes, trop lourds pour qu'on les déplace. Cet appartement est bon marché et il est intime. Les voisins sont discrets et la propriétaire préfère qu'on lui envoie le loyer par la poste. Ça m'a pris un peu de temps, mais je m'y sens maintenant suffisamment en sécurité pour ne pas fermer la porte du patio la nuit quand il fait chaud, laissant ainsi ma chambre ouverte au murmure de la brise qui remonte des rues et aux intrus spectraux qui venaient naguère hanter mes rêves. J'aime cet appartement comme les astronautes aiment leur vaisseau. La seule chose que je n'aime pas, c'est la devanture de la pharmacie du rez-de-chaussée, devant laquelle je passe tous les matins quand je sors pour courir. Elle contient 3 mannequins de femmes qui ont des plaques en onyx ovale en guise de visage, des bras coupés au milieu des biceps, des jambes coupées au milieu de la cuisse. On leur a donné des poses aguichantes, bassins déhanchés, comme s'ils présentaient des bikinis, mais au lieu de ça, ils présentent du matériel de premier secours. Le plus proche de la porte de mon immeuble a une ceinture de soutien lombaire, noire, sanglée comme un corset autour de la taille, et une écharpe orthopédique bleue passée autour du cou. À sa gauche, calé sur un fauteuil roulant, le deuxième arbore une genouillère serrée au bout de sa cuisse. Le troisième s'appuie contre le mur du fond, tout raide, un masque de sommeil couvrant l'endroit où ses yeux devraient être. Cela fait des mois et des mois maintenant que cette devanture n'a pas changé. J'ai beau faire des efforts pour regarder ailleurs, je ne peux pas m'empêcher d'y jeter un coup d'œil chaque fois que je passe devant, comme ces femmes qui, dans les films d'horreur, ne peuvent se retenir de monter à l'étage. Ne le prends pas mal, mais quand je vois ces mannequins, je pense toujours à toi. Toi, ma plus vieille amie, qui m'a toujours soutenue face à la misogynie ordinaire et au mauvais goût banal. »